BFM Business présente votre rendez-vous de référence de la fin de journée avec la grande interview des acteurs de l'actualité économique et politique et avec les experts du soir, débat sans concession autour des sujets du jour. Good evening business, Guillaume Paul.
18h, il est 18h, soyez les bienvenus. Si vous nous rejoignez sur BFM Business, dans l'actualité ce soir, on a un petit cocorico, comme on dit, il en faut parfois. Figurez-vous que la France est donc restée l'an dernier pour la 5e année de suite le pays qui a le plus attiré d'investissements directs de toute l'Europe. C'est une bonne nouvelle évidemment, sauf que dans le détail il y a peut-être des choses à redire évidemment. On va en parler avec Thomas Asportas dans un instant. Et puis on en parlera dans 10 minutes avec Franck Riester, le ministre délégué au commerce extérieur, qui viendra nous voir bien sûr sur BFM Business. Sinon on a eu du grand Bruno Le Maire aujourd'hui, tacle au patron de la SNCF qui est convoqué dans quelques jours à Bercy, et puis tacle au patron de Total Énergie parce que Bruno Le Maire ne veut pas que Total fasse de New York sa principale place de cotation. De tout ça, on parlera bien sûr avec nos experts qui arrivent à 18h30 évidemment. Et puis on leur demandera au passage s'ils envisagent de se baigner dans la Seine. Bah oui, vous savez qu'on a inauguré ce matin le fameux bassin de stockage des eaux usées et pluviales d'Austerlitz. 3 ans de travaux, facture d'1,4 milliard quand même. Ça vaut peut-être un petit plongeon accessoirement, mais on leur posera la question. Voilà le programme en tout cas non exhaustif. Nous sommes ensemble nous jusqu'à 20h. Très bonne soirée.
Good evening business, le journal.
Donc, champion d'Europe pour la 5e année de suite. Bonsoir ouais, Thomas.
Pas besoin d'attendre l'euro.
Non, même pas. La France est donc restée en 2023 le pays d'Europe le plus attractif pour les investissements étrangers, étude du cabinet EY. On est resté encore devant le Royaume-Uni, l'Allemagne l'année dernière, Thomas.
Oui, avec 1194 projets pour la France contre 985 pour le Royaume-Uni et 733 captés par l'Allemagne. L'exécutif, avec ce chiffre de 1194, ouais, se félicite d'attirer en gros un investissement étranger sur 5 en Europe. C'est un chiffre qui a augmenté de 3 points en 3 ans. Il y a quand même un bémol, c'est que le nombre de projets a reculé quand même l'an dernier. On est numéro 1, mais avec moins de projets que l'an dernier, 5% de moins. Mais vous voyez qu'on n'est pas du tout un cas isolé en Europe. On le sait, le ralentissement, il frappe tout le continent. Et donc, au global, ça a reculé de moins 4% en Europe, moins 5 chez nous, moins 6 en Allemagne, moins 12 en Italie et en Allemagne. C'était de moins 6, pardon, en Espagne. Le seul pays qui a réussi à attirer plus d'investissements l'an dernier, c'est le Royaume-Uni. Ouais. Mais on reste quand même à un niveau très inférieur à celui d'avant le Brexit. On est toujours aujourd'hui, 6 ans après le Brexit, à 18% d'investissements en moins au Royaume-Uni.
Ça veut dire qu'en France, il y a toujours des points favorables salués par les investisseurs. Ça qu'il faut.
Alors, ce qui plébiscite, ce sont nos fondamentaux, effectivement. Ouais. On le sait, la qualité de la main-d'œuvre, la qualité aussi de nos infrastructures et puis la taille de notre marché intérieur. Ils applaudissent aussi la constance du gouvernement dans sa politique pro-business. Mais tout n'est pas rose pour autant, bien entendu. Ça, ce sont pour les points forts, mais ils nous donnent aussi nos points faibles. Et les points faibles, c'est notamment le coût toujours très élevé de la fiscalité et de la main-d'œuvre, malgré toutes les réformes engagées depuis 2017. Autre point noir pointé par les investisseurs, les difficultés d'accès au financement. Ça nous renvoie à la réforme promise de l'Union des marchés de capitaux. Et enfin, un élément qui n'apparaissait plus dans les baromètres d'attractivité, mais qui redevient un point noir aux yeux des patrons étrangers, c'est le climat social et la qualité de vie, évidemment. Voilà, la succession de réformes et de crises et de manifestations et de grèves en tout genre et d'images un peu compliquées finit par se ressentir dans l'attractivité.
Bon, on en reparle avec vous, Thomas, tout à l'heure à 18h30 avec nos experts. Puis ça veut dire qu'on est encore en attente de réformes, finalement, de la part des investisseurs.
C'est jamais fini, mais
fini. Et on demandera justement qu'est-ce que peut désormais donner aux investisseurs étrangers le gouvernement français, l'État français. Franck Riester, donc ministre délégué au commerce extérieur, qui sera avec nous dans une petite dizaine de minutes sur BFM Business. Dans l'actualité, je vous le disais, encore une journée médiatique très chargée pour Bruno Le Maire. Ça a commencé ce matin. Il a taclé deux grands patrons sur BFM TV. D'abord celui de Total Énergie. Il l'a dit, il fera tout pour l'empêcher de déplacer sa cotation principale de Paris à New York. Piste qu'évoque depuis quelques jours Patrick Pouyanné. Ça aussi, on en parle avec nos experts tout à l'heure, à 18h30. Et puis il a aussi annoncé, Bruno Le Maire, qu'il allait convoquer à Bercy le patron de la SNCF, Jean-Pierre Farandou. Il n'a pas apprécié l'accord sur l'aménagement de fin de carrière des cheminots et des contrôleurs qui a été signé il y a quelques semaines en interne. Pour lui, c'est un accord qui entre, autre contourne, la réforme des retraites. Ça aussi, on en parlera avec nos experts tout à l'heure. Et puis, dans la foulée, Bruno Le Maire est allé faire un tour à Saint-Nazaire, sur le site des chantiers de l'Atlantique, pour parler éolien en mer. Le ministre le confirme, c'est vraiment une technologie que le gouvernement veut pousser dans les prochaines années. Écoutez.
Il n'y a quasiment aujourd'hui aucune électricité décarbonée produite par des champs éoliens en mer en France. C'est la réalité. Nous voulons donc décider, accélérer, et accélérer massivement le déploiement de l'éolien en mer d'ici 2050, c'est-à-dire d'ici 25 ans. Nous voulons qu'il y ait 45 gigawatts d'éolien en mer déployés sur les côtes françaises. C'est-à-dire que nous voulons que l'éolien en mer, qui aujourd'hui ne représente rien dans le mix énergétique de notre pays, représente d'ici 25 ans 20% de notre consommation électrique.
Voilà, Bruno Le Maire tout à l'heure du côté de Saint-Nazaire. Et puis dans l'actualité des entreprises, toujours grosse déception pour Alstom qui espérait décrocher le contrat pour fabriquer les trains de la toute première ligne à grande vitesse des États-Unis entre Los Angeles et Las Vegas. Le problème, c'est que c'est Siemens qui l'a emporté, contrat qui pourrait atteindre jusqu'à 12 milliards de dollars, d'après la presse américaine. 18h05, on revient en France avec cette question. Est-ce qu'il faut craindre que le mouvement des agriculteurs ne reparte de plus belle? Il y avait une réunion ce matin à l'Élysée entre les syndicats et Emmanuel Macron. À l'issue de cette réunion, le président leur a simplement dit qu'il attendait 2025 pour livrer son projet d'avenir pour le secteur agricole. Ça a laissé un peu sur sa faim la porte-parole de la Confédération paysanne. Écoutez.
On n'a pas eu de réponse sur des choix forts qui concernent par exemple l'installation, la transmission. Pas de nouvelles annonces qui pourraient être de nature aussi à rassurer des paysans qui sont toujours en difficulté, sans vision structurelle de long terme pour pouvoir assurer du revenu. Il y a bien Egalim 4 qui va se préparer, l'engagement si. Que Egalim 4 pourrait être opérationnel dès les prochaines négociations commerciales, parce que franchement, c'était l'urgence la plus urgente d'entre toutes, celle du revenu, de prix pour nos produits. Sur le timing, c'est pas si mal, mais pas d'engagement si l'ensemble des filières, l'ensemble des produits seraient concernés par cette mesure indispensable sur des prix minimums qui couvriraient les coûts de production.
Voilà, Laurence Marandola, la porte-parole de la Confédération paysanne, tout à l'heure à la sortie de l'Élysée. Et puis, on voulait dire un mot des violences d'orage et des averses de grêle qui ont frappé certaines zones du pays cette nuit. Il y a eu beaucoup de dégâts, notamment dans l'Yonne. À Chablis, beaucoup de vignobles dévastés, ce qui risque de mettre du coup au tapis beaucoup de petites entreprises locales. Reportage sur place de Benjamin Berthaud, Cédric Fesch et Julien Roland.
L'orage a frappé sans relâche au moins 20 hectares chez ce vigneron. Les grêlons ont coupé les feuilles de vigne et détruit jusqu'à la racine. Difficile du coup d'estimer l'étendue complète des dégâts, comme l'explique Maxime Savary, co-gérant du domaine Savary Chablis.
Toutes les grappes qui sont abîmées, celles qui sont par terre, celles qui feront rien du tout, quoi.
Dans la nuit, cet orage très violent a ainsi traversé et ravagé toute la région de Chablis. Le voici filmé par un chasseur d'orage. Certains grêlons faisaient 6 cm de diamètre. En quelques minutes, certains viticulteurs ont tout perdu. Un coup dur pour cette région dont Chablis est le poumon économique, comme l'explique Marie-Josée Vaillant, la maire de Chablis.
Ça perturbe tout le monde. Si les viticulteurs ne travaillent pas bien et n'ont pas une bonne récolte, ça perturbe tout le monde, des artisans aux commerçants, à toute l'activité économique et bien au-delà de Chablis.
Le vignoble couvre près de 6000 hectares dans la région et selon certains viticulteurs, cet orage aura des conséquences sur les récoltes de l'année prochaine.
Caroline Morisseau, et puis grand mariage annoncé aujourd'hui dans le secteur des spiritueux. Le groupe italien Campari s'offre Courvoisier, prestigieuse marque française de cognac, pour une somme absolument magistrale. Alexandra Paget.
1 milliard d'euros pour faire entrer la célèbre bouteille de cognac en forme de goutte dans l'empire de la non moins iconique liqueur italienne de couleur rouge. Courvoisier, fondé à Jarnac en 1828, va ainsi rejoindre le portefeuille déjà bien garni de Campari, Aperol, Grand Marnier, le Bourbon White Turkey ou encore Picon. Cette transaction, la plus importante de l'ensemble des acquisitions du géant italien, qui possède aujourd'hui plus d'une cinquantaine de références, doit contribuer à l'accroissement de ses capacités de production et d'embouteillage en France. Et surtout, lui permettre d'entrer dans le club des Big Four, les quatre marques majeures de cognac, marché de luxe hautement concurrentiel. Campari, en s'offrant Courvoisier, va ainsi rééquilibrer un marché dominé par des multinationales. Hennessy est la propriété du groupe LVMH, Martell appartient à Pernod Ricard et Rémy Martin est adossé à Rémy Cointreau. Le marché mondial du prestigieux alcool français, estimé à 3 milliards d'euros en 2023, devrait en atteindre 10 d'ici 2032, selon la dernière étude d'un cabinet américain.
À consommer avec modération, bien évidemment. 18h09, on va sur les marchés.
Votre rendez-vous avec eToro, plateforme de trading et d'investissement. Les traders intelligents choisissent les meilleurs outils.
Étienne Brack, Euronext à la défense. Bonsoir Étienne, on termine en baisse ce soir à la Bourse
de Paris. En effet, troisième séance dans le rouge, ce n'est pas arrivé depuis 3 semaines à la Bourse de Paris qui perd les 8000 points. 7914 points, c'est une baisse de 0,8% avec hier soir Jerome Powell qui annonçait qu'il n'était pas très confiant, en tout cas moins confiant dans une baisse de l'inflation cette année aux États-Unis. Donc forcément, ça douche un petit peu les esprits. Du côté des valeurs, à noter Téléperformance qui gagne plus de 13% après avoir rassuré sur la publication de son chiffre d'affaires. Worldline également qui a beaucoup inquiété les investisseurs, gagne 10% ce soir à la clôture. Et puis ING, Amsterdam gagne plus de 6%. Le secteur bancaire qui va mieux. On l'a vu avec BNP, on verra demain ce que ça donne avec Crédit Agricole ou encore Société Générale. Le CAC 40 donc qui clôture en petite baisse ce soir de 0,8% sous les 8000 points à 7914 points avant Apple ce soir.
Merci beaucoup Étienne, on regarde rapidement ce qui se passe à Wall Street. Bien sûr à la mi-séance, le Dow Jones qui grappille 0,4%, 38053 points. Et puis l'indice Nasdaq de son côté qui grappille lui 0,9%, 15 746. Tout ça à la mi-séance bien sûr. 18h10, la France championne d'Europe pour la 5e année. C'est le pays d'Europe qui a attiré le plus d'investissements étrangers. Direct, Franck Riester, le ministre délégué au commerce extérieur, avec nous dans un instant sur BFM Business. À tout de suite.
BFM Business présente la grande interview.
Allez, 18h13 sur BFM Business, c'est donc le ministre délégué chargé du commerce extérieur, de l'attractivité, de la francophonie, des Français de l'étranger, Franck Riester, qui est avec nous. Bonsoir monsieur le ministre.
Bonsoir.
Merci beaucoup. Alors c'est le petit cocorico du jour, il en faut. Et c'est tant mieux, la France est donc restée pour la 5e année d'affilée le pays d'Europe qui a accueilli le plus d'investissements étrangers directs. 1194 projets l'an dernier. Bon, nos amis anglais et allemands étaient loin derrière, c'est pas vraiment une surprise monsieur le ministre quand même. C'est bon, c'est bon à prendre. Mais
bah, c'est pas une surprise. Mais c'est une confirmation. Oui. C'est un beau résultat. On est vraiment heureux parce que c'est le fruit d'un travail, c'est le fruit d'une politique. C'est pas tombé du ciel. C'est la cinquième fois qu'effectivement la France est le pays en Europe qui accueille le plus d'investissements étrangers sur son sol. Ouais. Et ce qui est très satisfaisant, c'est que c'est à la fois sur l'industrie, et on sait à quel point la France avait du retard, et c'est sur tout ce qui concerne l'innovation, la recherche et le développement.
Oui.
Sur l'industrie, je vais vous donner un chiffre, ou plusieurs chiffres d'ailleurs, qui sont absolument frappants. En 2023, la France a accueilli 3 fois plus d'investissements dans l'industrie que la Grande-Bretagne. 6 fois plus que l'Allemagne. 9 fois plus que l'Italie. Ça montre à quel point, quand des investisseurs étrangers se disent « Comment je vais investir mon outil industriel en Europe ?» ils choisissent très largement la France plutôt que les autres pays du continent européen. Et ça, c'est le fruit de cette politique pro-business, favorable à l'écosystème économique qu'a voulu depuis 2017 le président de la République. Alors, ça avait commencé un petit peu.
J'avais posé la question. Est-ce que vous faites que vous rendez à François Hollande ce qui est d'avoir commencé?
En gros, ça fait une dizaine d'années que la France se tourne vers une politique de l'offre.
Oui.
C'est vrai qu'il y a eu le CICE, c'est vrai qu'il y a eu le Comri qui allait dans le bon sens.
Oui.
Et depuis 2017, le président de la République a accéléré avec la baisse de la fiscalité. Je rappelle quand même, parce que les chefs d'entreprise ou les salariés dans les entreprises qui les écoutent savent que depuis 2017, on était à 33% d'IS,
l'impôt sur les sociétés,
on est maintenant à 25%.
Oui.
Donc quand une entreprise gagne de l'argent...
On descend dans la moyenne européenne.
C'est 8 points d'écart, oui. C'est autant d'argent qui peut être mobilisé pour investir pour l'avenir, pour investir dans la formation, pour investir dans la recherche et l'innovation.
Monsieur le ministre, on reste leader avec quand même 5% de projets en moins. Bon, les Allemands sont à moins 12, la moyenne européenne c'est moins 4. Est-ce que ça veut dire, entre autres, que cette dynamique, elle est un petit peu enrayée par ce qui se passe du côté des États-Unis avec l'IRA de Joe Biden? Est-ce que ça ne veut pas dire que l'Europe va devoir de nouveau apprendre à se montrer encore plus attractive finalement?
Oui, vous avez raison de dire que l'attractivité de la France passe aussi par l'attractivité de l'Europe. Et qu'une partie de notre activité repose sur la capacité de l'Europe à répondre à la concurrence, dans la compétition mondiale avec les États-Unis, avec la Chine, avec la Turquie, avec un certain nombre de pays.
Avec des pays comme la Pologne, la Serbie, de nouveaux entrants.
Qui sont très offensifs. Oui. Et donc, il faut effectivement avoir une politique européenne à la fois de soutien d'investissement. On voit bien que les États-Unis mettent beaucoup d'argent dans le soutien à l'investissement, notamment pour la décarbonation. Ben nous, il faut qu'on commence à le faire en Europe, mais il faut aller beaucoup plus loin. Et c'est ce qu'a annoncé, c'est ce qu'a dit le président de la République dans son discours de la Sorbonne 2, notamment. Il faut qu'on soit beaucoup plus offensif de ce point de vue-là. Il faut qu'on travaille au financement des entreprises, d'où l'union des marchés financiers, d'où cette proposition de loi, ce texte qui est en discussion au Parlement, la PPL dite Holroyd, qui vise à faciliter l'investissement dans les des entreprises en France. Et puis, c'est notre capacité à mieux nous protéger face à des concurrences déloyales, plus de réciprocité par rapport à des pays dans le monde qui ne font pas de réciprocité, par exemple sur l'ouverture des marchés publics, plus de concurrence loyale.
Est-ce que vous avez un pays à citer en particulier là,
On sait bien, il y a notamment la Chine, mais pas seulement la Chine. Mais c'est vrai que la Chine est un de ceux-là. Par exemple, je vais vous donner un exemple très, très important. C'est la première fois depuis des années que l'Europe lance une enquête pour la Chine d'ouverture de marchés publics sur le secteur des dispositifs médicaux.
Oui.
Nous ouvrons nos marchés publics à tous les pays du monde, la Chine non. Eh bien, on dit aux Chinois, si vous n'ouvrez pas vos marchés publics à nos entreprises en matière de dispositifs médicaux, de matériel médicaux, eh bien, vos entreprises, peut-être, on verra ce que sera la décision de l'Union européenne, peut-être seront amenées à être pénalisées.
Vous pensez que le président de la République en parlera au président chinois Xi Jinping de l'année prochaine.
La Chine est un grand pays et on veut continuer de travailler avec la Chine. On a nos entreprises qui exportent, on a nos entreprises qui ont investi en Chine. C'est un grand partenaire. On a envie de travailler avec la Chine, de travailler en Chine et d'exporter vers la Chine. Mais il faut que ça soit plus équilibré. Aujourd'hui, on a un déficit commercial très important avec la Chine et on dit ça aux Chinois. Il faut que ça soit plus équilibré et il faut que ça soit plus équitable. C'est-à-dire qu'il y ait de la réciprocité, notamment dans l'ouverture des marchés publics. Il faut qu'il n'y ait pas de pratiques distorsives, c'est-à-dire par exemple des subventions qui viendraient fausser le marché.
Il y a une pression forte sur vos épaules pour que la France, alors qui est leader, qui est première, reste leader. D'ailleurs, EY pose vraiment la question, attractive un jour, attractive toujours. La majorité des investisseurs semblent considérer que la France va rester attractive et va être encore plus attractive. Autrement dit, qu'elle va faire les réformes. Qu'est-ce que vous allez donner de plus aux investisseurs et aux patrons étrangers pour les faire venir dans les prochaines années, finalement? Qu'est-ce que vous pouvez leur proposer?
Alors, vous avez dit beaucoup de choses justes. C'est-à-dire, vous avez dit d'abord...
Il va falloir délivrer, c'est ça qu'il faut dire, finalement.
Oui, exactement. Il ne faut pas se reposer sur nos lauriers. C'est-à-dire que l'attractivité, c'est quelque chose qui est un sujet sur lequel il faut se mobiliser et investir en permanence. Parce que nos compétiteurs nous regardent pas en chien de faïence et eux aussi se bougent. Et donc, il faut en permanence aller de l'avant.
Je vous pose la question parce que vous l'avez mentionné, il y a encore des freins à l'investissement en France notables dans ce que nous dit l'étude EY aujourd'hui.
Et deuxièmement, il faut écouter ce que nous disent les investisseurs sur les choses sur lesquelles il faut qu'on continue d'améliorer notre attractivité. Il y a notamment, ils nous disent, et ça c'est important, ne pas changer de politique. Et quand je vois, notamment là, on voit bien dans les discussions qu'il y a actuellement avec la campagne des européennes, certains qui veulent nous replier sur nous-mêmes, qui veulent qu'on augmente les impôts des entreprises, nous, on changera, on dit une chose claire, on ne changera pas de stratégie. On va garder une stratégie de politique de l'offre, une politique qui vise à maintenir la fiscalité des entreprises, à accompagner notre outil économique. Et donc, on ne va pas changer de stratégie. Et ça, c'est ce que veulent entendre les investisseurs. Et puis, deuxièmement, il faut qu'on aille plus loin, notamment sur deux sujets. Un, la question de la simplification administrative. Et vous avez vu qu'a été annoncé par le Premier ministre, par le ministre de l'Économie et des Finances, à la demande du Président de la République, un plan de simplification ambitieux de toutes les contraintes administratives des entreprises. Et ça, c'est absolument clé. Et on veut qu'il y ait des résultats concrets et que ça se voit. Et moi, je verrais, de mon point de vue, en tant que ministre du Commerce extérieur, aussi ma part à faire pour simplifier la vie des exportateurs. Et puis, le deuxième sujet...
Un travail de longue haleine, ça, monsieur le ministre. Ça fait longtemps qu'on en parle.
Et puis, le deuxième... Oui, mais on a des résultats concrets. Il faut aller beaucoup plus loin. Et puis, deuxièmement, c'est le fait de pouvoir faciliter les nouveaux investissements. Ouais. Ce qu'on appelle les investissements greenfield, en bon français. C'est-à-dire... un terrain nu, en combien de temps on arrive à construire? Et là, il y a eu des progrès de fait, mais pas suffisants. Il y a eu des progrès de fait grâce à la loi Industrie verte, il y a eu des progrès de fait grâce à ces terrains clés en main proposés par Territoires d'Industrie, mais il faut aller encore plus vite, encore plus rapide, pour qu'un investisseur qui décide de créer une usine en France puisse le faire très rapidement. Or, aujourd'hui, on a des contraintes administratives qui sont beaucoup trop lourdes, et ça, c'est ce que nous disent les investisseurs, vous êtes trop long en France pour construire une usine from scratch.
Est-ce qu'il y a aujourd'hui un sujet coût du travail, parce que c'est aussi l'un des enseignements de cette étude qui dit voilà, quand il y a un projet d'investissement en France, ça crée en moyenne, je parle bien en moyenne, 35 emplois. C'est 49 en Allemagne et 61 au Royaume-Uni. Est-ce qu'il y a un sujet coût du travail aussi?
Alors, il y a toujours un sujet. Il faut toujours regarder la question du coût du travail. Mais dans ces chiffres, c'est parce qu'aussi on a plus de projets. Et on n'a pas moins de gros projets. que les Britanniques ou les Allemands. C'est-à-dire qu'il n'y a pas moins de projets d'investissement étrangers de plus de 150 salariés en France par rapport à la Grande-Bretagne et à l'Allemagne. Il y a simplement plus de petits projets. Et notamment plus de projets d'extension ou de renouvellement, de modernisation des installations d'ores et déjà présentes sur notre sol. Pour moi, ce n'est pas négatif. Parce que ça veut dire que les investisseurs qui ont fait le choix de la France continuent de faire le choix de la France. Ça veut dire qu'ils sont satisfaits du choix qu'ils ont fait. Mais
On a plus de mal, cela dit, aussi ce que dit l'étude, à faire venir de nouveaux entrants.
Oui, c'est ce que je vous disais. Voilà. C'est ce que je disais sur les terrains.
Il y a plus de projets d'extension que de nouveaux.
Oui, mais c'est ce que je vous disais sur les. Oui, mais on parlait des emplois. Oui. Sur les emplois, quand on regarde les projets, il n'y a pas un frein coût du travail en France, parce que quand on regarde précisément les gros projets créateurs d'emplois, ils sont aussi nombreux en France qu'en Grande-Bretagne et qu'en Allemagne. Simplement, on a plus de petits projets. En revanche, c'est vrai que quand un investisseur veut créer une nouvelle usine, là, c'est un peu plus compliqué. C'est pas une question de coût du travail, c'est une question de complexité à créer cette nouvel investissement. Et donc, on va continuer de travailler là-dessus, parce que ça, c'est important pour faciliter l'accès à les investissements étrangers en la matière.
2-3 minutes encore d'interview avec vous. Une question, est-ce que la France est toujours une terre d'innovation?
Oui, bien sûr.
Et est-ce qu'il faut arrêter ce débat autour de l'efficience du crédit impôt recherche, qui est un
débat de... Alors, d'abord, le crédit d'impôt est un des éléments de l'attractivité de notre pays, notamment pour investir dans la recherche et le développement.
Donc là-dessus,
ça, c'est un atout majeur. Et il ne faut pas, encore une fois,
des rapports qui ont circulé sur le sujet.
Comme je vous le disais tout à l'heure sur la politique vis-à-vis de la fiscalité ou de l'accompagnement des entreprises, on ne va pas changer quelque chose qui marche. En revanche, on peut toujours améliorer les dispositifs. Toutes les entreprises en permanence sont en train de revoir leur process de fabrication, leur process de marketing, de commercialisation. Il n'y a pas de raison qu'on ne revoie pas en permanence aussi ce crédit d'impôt recherche pour, à argent public égal, il soit encore plus efficace. Et deuxièmement, il ne faut pas s'arrêter au crédit d'impôt recherche. Il faut aller toujours plus loin. Vous savez qu'on a France 2030, c'est 54 milliards de soutien aux innovations dans des secteurs clés d'avenir. Eh bien, on continue de le déployer. On en a en gros déployé un peu plus de la moitié. Il faut aller jusqu'au bout. Et on développe un crédit d'impôt vert aussi pour accompagner la décarbonation de notre économie. Et on veut continuer de soutenir les entreprises qui investissent dans la recherche et le développement en France. Oui. Et puis, il y a tout le travail qu'on fait de recherche, les moyens pour la recherche, et puis les moyens et l'adéquation entre la formation, notamment la formation professionnelle, et les entreprises. Parce qu'il faut qu'on continue d'avoir des talents reconnus dans le monde. Parce que ce qui fait un des éléments très importants d'attractivité en France, c'est l'accès à des compétences nombreuses et de grande qualité. Oui. Et ça, c'est ce qu'on a en France, et il faut continuer de conforter ça.
En guise de conclusion, monsieur le ministre, on a souvent dit ces dernières années qu'on était leader peut-être, mais peut-être un petit peu leader par défaut, parce que l'Allemagne se cherchait en quête d'un nouveau modèle, parce que les Anglais étaient toujours affaiblis par le Brexit. Tension, parce qu'on voit que le Royaume-Uni retrouve quelques attraits auprès des investisseurs internationaux. Ils sont toujours au top sur les sièges sociaux, les services financiers. Ça reste un peu the place to be. Mais attention au retour des Anglais, finalement.
Je vous ai dit, nous, on va pas...
On n'est pas premier par défaut, voilà ce que je vous pose.
Non. On va pas se reposer sur nos lauriers. Je vous dis, on sait que la concurrence est rude. Mais ça fait 5 ans qu'on est champion en Europe en matière d'investissement étranger. Les Britanniques, il y a certes une remontée cette année, en 2023, des investissements. Enfin, quand même, on peut constater que le Brexit, c'était pas une bonne chose pour l'économie britannique.
Oui, mais on entend dire, on a l'impression que les effets du Brexit sont en train de s'estomper un petit peu quand
même. Mais ça veut dire qu'il faut qu'on continue, notamment sur la question de l'attractivité de la place financière de Paris, ne pas lâcher notre effort. Il y a eu des choses très positives. On a pris une avance par rapport aux autres places financières en Europe, mais par rapport à Londres, on peut encore mieux faire. Il y a 6000 emplois de créés depuis le Brexit, mais il faut aller beaucoup plus loin et on y travaille. Il y a notamment la PayPal All Right dont je parlais tout à l'heure, mais il faut sûrement réfléchir à encore aller plus loin sur l'attractivité de la place de Paris. Et puis sur les sièges sociaux, il faut expliquer aux entreprises qui n'ont pour l'instant pas encore complètement compris que pour accéder au marché européen, au marché unique européen, c'est plus facile, plus efficace, plus simple, plus économique de le faire depuis Paris. Il faut qu'on fasse aussi de la pédagogie, c'est de la communication. Vous avez peut-être vu qu'on lance on a lancé en 2023 une grande campagne de communication autour de Choose France, c'est-à-dire Make it iconic, c'est-à-dire une communication sur la marque France. Il faut aussi qu'on communique mieux sur ce qu'est ce sont les forces de notre pays. Et puis aussi que les Français dans leur ensemble, relaient mieux aussi l'attractivité de la France et la compétitivité de la France. C'est ce qu'on essaye de faire en communiquant sur tout ce qu'est le plan d'action du gouvernement en la matière.
Bon, vaste chantier, et puis on en reparlera dans à peine 15 jours, Franck Riester, parce qu'il y aura le fameux sommet de Schuss France. Oui. Ce sera le 13 mai, lundi, dans 15 jours.
Avec encore des annonces d'investissement pour 2024.
Ah, il y aura des annonces. Vous nous dites,
d'accord. Bien sûr, il y aura des annonces.
Qu'est-ce qui va être annoncé?
Vous verrez bien. On ne va pas lever le voile sur les annonces qui seront faites pour Schuss France, mais oui, il y aura des annonces.
Et
oui,
des
il y
a beaucoup. Des contrats.
Oui, des annonces d'investissement. Bon. Et il y aura un certain nombre d'investisseurs du monde entier qui viendront, qui pourront. D'abord, on les remerciera de leurs investissements, et puis on leur expliquera, le président notamment, quelle est la ligne de la stratégie politique de la France en matière économique. Toujours à vouloir être plus attractif, plus compétitif, investir dans l'avenir, investir dans les compétences, soutenir les entreprises. Et c'est comme ça qu'on a des résultats et on va continuer d'en essayer d'en avoir.
Et vous savez quoi, BFM Business, il sera sur place.
Avec grand plaisir.
On pourra commenter tout ça. Merci beaucoup Franck Riester.
Merci à vous.
Merci de passer nous voir, ministre délégué chargé du commerce extérieur avec nous sur BFM Business.
Merci
beaucoup. 18h27.
Good evening business. Actu, expert, débat et interview des grands acteurs de l'économie.
Frédéric Simotel est passé nous voir quelques minutes. Bonsoir Frédéric.
Bonsoir.
Je ne sais pas s'il faut conclure que la France a peur, selon l'expression consacrée à moins de 3 mois des JO. Non mais on voulait dire un mot de ce rapport du Sénat qui a fuité dans la presse, Frédéric, qui nous dit que tout ce qui a été mis en place en matière de lutte anti-drone à l'occasion des Jeux, bah, tout ça laisse quelque peu à désirer apparemment.
Oui, ça faisait une quinzaine de jours qu'on entendait un peu tous ces échos autour de tout ça. Puis là, effectivement, ce rapport des sénateurs, de la Commission des Affaires étrangères, de la Défense et des Forces armées, présidée par Cédric Perrin, voilà, l'a confirmé. Il y a un petit souci sur le système qui a été choisi, qui s'appelle le Parade. Ouais. C'est un système qui a été choisi avec... Alors, il y a Thales, il y a CS Group, et puis il y a d'autres sous-traitants qui sont dans ce consortium. C'est pour combattre... c'est la lutte vraiment anti-drone. Alors, c'est un système assez complexe parce que ce sont des caméras, des radars. Derrière, il y a un système d'émission, de goniométrie, voilà, pour repérer les émissions radio. Et puis voilà, repérer ces drones. Et une fois qu'ils sont repérés, c'est là où on entre en il y a des outils de contre-mesure pour les dévier, voire en dernier lieu les abattre. Mais là, on est quand même dans un environnement urbain et c'est là où c'est un peu compliqué. Et d'ailleurs, l'environnement urbain, c'est là où ces drones posent visiblement problème. Lorsqu'on les teste sur des aéroports et tout ça, ça va. Il y a un autre système qui a été efficace d'ailleurs à l'époque du temps de la Coupe du Monde 2023. La Coupe du Monde de rugby, mais on était autour de stades et tout ça. On n'était pas dans un environnement très urbain. Vous imaginez là ce que ça va être.
Là, on est en plein Paris, là.
Au moment de la
cérémonie d'ouverture.
Donc là, il faut savoir quand même en France, il y a 3 millions de drones.
J'ai vu ce chiffre hier. On estime qu'il y a 3 millions de drones en France.
Et là, on parle de drones parce qu'il pourra y avoir des drones encore plus petits. Mais les drones que l'on voit, tels que l'on voit à l'image, c'est-à-dire des drones qui ont la taille d'une grosse boîte de chaussures avec 5, 6, 7, 8 hélices, voilà, il y a quand même 3 millions. Et on se doute que c'est très facilement transformable en une arme, avec tout ce qu'il peut y avoir. Et donc là, c'est quand même une inquiétude parce qu'on a des fusils brueurs, on a tous ces outils-là, mais ce qu'il faut, c'est les repérer avant pour essayer. Après, il peut y avoir des drones avec des filets pour les capturer. Enfin, il y a tout un système. On est vraiment, ça paraît amusant comme ça en parler, mais on est vraiment c'est vraiment la grande crainte des autorités. Et là, c'est le Parisien qui explique que dans ce rapport qui était confidentiel, eh bien, il y a une grosse inquiétude parce que le système n'est pas prêt. Alors, c'est un système quand même qui a coûté, le projet coûte 350 millions d'euros sur 11 ans. Donc, et ça donne toute la complexité de ce système parce qu'on est vraiment, on est en trois dimensions, quoi, dans les airs. Il faut pas confondre avec les ailes d'une petite éolienne. Ouais. Il y a tout un tas de choses et c'est l'environnement urbain. Et alors derrière, il y a un autre défi, c'est la formation. Parce que ça, ce sont des technologies, ce ne sont pas des technologies totalement autonomes. Il y a aussi derrière de la formation de militaires, il y a la formation, on pilote un drone comme on pilote un aéronef, c'est pas, d'ailleurs il y a certains drones même dans le privé où l'on doit avoir un diplôme pour pouvoir le piloter, pour qu'il soit plus à vue, etc. Donc il y a vraiment une grosse inquiétude à ce sujet-là. Alors le groupe Thales s'en défend et dit mais vous inquiétez pas, on maîtrise ces développements, on ne confirme ni on infirme ce qui a été raconté. Et toujours est-il qu'on sera prêt pour les JO 2024.
Pour la cérémonie d'ouverture avec 300 000 spectateurs réunis sur 6 km au bord de la Seine. Évidemment, là, peut y avoir des inquiétudes. Merci beaucoup Frédéric. Frédéric Simotel qu'on retrouve Tech & Co, bien sûr, tout à l'heure à 20h avec François Sorel sur BFM Business. 18h31, je vous redonne les grands titres de l'actualité en attendant la bonne nouvelle du jour. Donc, on en parlait avec Franck Riester. La France est donc restée pour la 5e année d'affilée le pays d'Europe qui a accueilli le plus d'investissements étrangers directs. Étude du cabinet EY, 1194 projets. L'an dernier, Bruno Le Maire qui a taclé deux grands patrons aujourd'hui. D'abord celui de Total Energy. Il fera tout, dit Bruno Le Maire, pour empêcher le groupe de déplacer sa cotation principale de Paris à New York. Piste qu'évoque depuis quelques jours Patrick Pouyanné. Et puis Bruno Le Maire a aussi annoncé qu'il allait convoquer à Bercy le patron de la SNCF, Jean-Pierre Farandou. Il n'a pas apprécié l'accord sur l'aménagement de fin de carrière des cheminots et des contrôleurs qui a été signé récemment. Pour lui, c'est un accord qui, entre autres, contourne la réforme des retraites. Et puis, grosse déception pour Alstom, qui espérait décrocher le contrat pour fabriquer les trains de la toute première ligne à grande vitesse des États-Unis entre Los Angeles et Las Vegas. C'est Siemens qui a finalement remporté ce contrat qui pourrait atteindre 12 milliards de dollars, d'après la presse américaine. 18h32, on vient avec Audrey Tcherkov et tous nos experts. Première partie dans un instant jusqu'à 19h. À tout de suite.
Good evening business. Actu, experts, débats et interviews des grands acteurs de l'économie.
Allez, 18h34, on est reparti sur BFM Business. Good evening business jusqu'à 20h. Bonsoir Audrey.
Bonsoir Guillaume.
Audrey,
bonsoir à tous.
Tcherkov qui nous rejoint bien sûr comme tous les soirs en direct jusqu'à 20h sur BFM Business et nos experts qui sont là. Mathieu Pechberti, bonsoir.
Bonsoir.
Emmanuel Le Chypre, bonsoir.
Bonsoir.
Et Thomas Asportas, bonsoir.
Bonsoir.
On a un cocorico aujourd'hui, c'est pas tous les jours. Profitons-en.
Oui, profitons-en.
Puisque c'est la bonne nouvelle du jour, la France, on en parlait avec le ministre à l'instant, est donc resté pour la 5e année de suite le pays d'Europe ayant accueilli le plus d'investissements étrangers directs. 1194 projets l'an dernier, nous a dit le cabinet EY ce matin.
Oui, donc on reste leader. Toutefois, il faut le dire, ce chiffre est en baisse de 5% par rapport à l'année 2022, mais ça suffit au bonheur du ministre délégué au commerce extérieur, Franck Riester, en effet, qui était tout à l'heure face à vous. Guillaume, on l'écoute tout de suite.
C'est pas tombé du ciel. C'est la 5e fois qu'effectivement la France est le pays en Europe qui accueille le plus d'investissements étrangers sur son sol. Ouais. Et ce qui est très satisfaisant, c'est que c'est à la fois sur l'industrie, et on sait à quel point la France avait du retard, et c'est sur tout ce qui concerne l'innovation, la recherche et le développement.
Oui.
Sur l'industrie, je vais vous donner un chiffre, ou plusieurs chiffres d'ailleurs, qui sont absolument frappants. En 2023, la France a accueilli 3 fois plus d'investissements dans l'industrie que la Grande-Bretagne, 6 fois plus que l'Allemagne, 9 fois plus que l'Italie.
Bon, il n'a pas tort. Tout ça, ça donne quand même raison au gouvernement. On n'est pas décrié par les agences de notation qui maintiennent la note française. La croissance se porte mieux que prévu. Et en plus de ça, donc dernière bonne nouvelle en date, Emmanuel Le Chypre, la France championne d'Europe pour la 5e année consécutive. C'est quand même pas mal.
Ah oui, c'est une bonne séquence. On peut dire effectivement que sur la semaine, on a plutôt des bonnes nouvelles. Alors, c'est vrai qu'en matière d'attractivité, on est plutôt bien classé. Il y a d'autres classements, celui d'AT Kearney par exemple, qui nous dit que parmi, si on prend les 40 plus grandes puissances industrialisées, on est 6e, ça fait 4 ans. Alors, sur les projets industriels, c'est vrai que quand on regarde si cette attractivité a un effet d'entraînement sur la réindustrialisation, oui, mais qui est quand même assez balbutiant encore, puisque effectivement, alors on parle de 530 projets ou extensions de projets existants, mais quand vous regardez le nouveau baromètre, par exemple de Bercy, sur la différence entre le nombre d'usines qui ouvrent et le nombre d'usines qui ferment, on est à peu près sur une cinquantaine d'usines en 2023. Cinquantaine d'usines, sachant qu'il y a 260 000 entreprises industrielles en France. Hein, donc ça donne un peu un ordre de relativité. Et après, surtout, ce qui est inquiétant finalement dans ce classement, c'est de voir à quel point l'Europe perd globalement du terrain. C'est-à-dire qu'en fait, la France,
aux États-Unis.
Bah oui, la France, elle a plus tellement de problèmes avec ses concurrents directs, que ce soit l'Allemagne, que ce soit le Royaume-Uni. Mais il y a quand même un vrai sujet européen quand vous voyez à travers travers quand même ce chiffre qui, moi, est le plus saisissant de tout ce, de toute cette étude, c'est quand même la chute des investissements américains en Europe. C'est-à-dire qu'on est sur, moins 15% en 2023, moins 30% en 2022, sur deux ans, et notamment parce qu'il y a un paramètre qui est extrêmement pénalisant pour les investisseurs étrangers, c'est le prix de l'énergie. Et ça, quand même, ce déclin européen, il est assez inquiétant.
Est-ce qu'on y voit une des conséquences de l'IRA américain qui commence à produire ses effets ? Oui, évidemment, Thomas. Non, ça reste le...
Très clairement. Là, effectivement, ça nous donne la confirmation que l'IRA, que les prix de l'énergie qui sont très faibles, et de manière générale, une politique économique très compétitive aux États-Unis, écrase, je ne sais pas si c'est le mot, mais font très mal effectivement à l'Europe. Et puis il y a aussi le continent asiatique, qui ne se résume pas qu'à la Chine, où là-bas aussi la capacité à attirer des investissements directs étrangers est très forte et où la dynamique est très forte, beaucoup plus qu'en Europe, on l'a vu. La France décroche de 5% en nombre de projets captés l'an dernier, mais c'est pareil pour la moyenne de la zone euro, c'est de 4%.
Oui, c'est 4%.
Mais alors, mais très concrètement, qu'est-ce qui pourrait sauver l'Europe ? Est-ce que c'est ce fameux union des marchés de capitaux qui pourrait nous permettre de regagner en termes de compétitivité ?
Si on arrive à la faire, c'est un point visiblement que les investisseurs, les patrons, les financiers réclament. C'est-à-dire que dans les irritants, comme on dit, c'est du jargon technocrate, mais donc dans les points noirs, la capacité à se financer est l'un des points noirs, effectivement, l'un des éléments décriés par les investisseurs. Et donc si on arrive enfin à la faire, c'est évident. C'est-à-dire qu'on a une économie qui a une certaine taille, mais une capacité à la financer qui est deux fois moindre. Donc si on arrive enfin à faire matcher les deux critères, bien évidemment que ça profitera à notre compétitivité. Mais après, est-ce qu'on va vraiment arriver à la faire à la hauteur de nos ambitions, ça reste à démontrer. On sait bien, c'est un serpent de mer, cette histoire du nom des marchés.
Dans les irritants, comme dit Thomas, il y a aussi la fiscalité. Apparemment, c'est encore un frein à l'investissement en Europe. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus ? Qu'est-ce que le gouvernement peut dérouler de plus aux investisseurs et aux patrons étrangers, finalement, Emmanuel, pour vous ? Qu'est-ce qui reste à faire ? Qu'est-ce qu'on peut leur promettre désormais pour les faire venir ?
C'est un moindre irritant. Il faut reconnaître, la France a fait
des
progrès là-dessus. Après, il y a des sujets sur lesquels, effectivement, l'Europe a des handicaps considérable, c'est la complexité, et ça reste
On va parler des ministres, on ne peut pas leur reprocher.
Ça reste quand même un point noir incontestable. La complexité, le coût du travail, qui est aussi plus élevé. Donc la France va...
Le coût du travail, on va avoir du mal à faire plus.
La France va bien dans une Europe qui ne va pas très bien.
Ouais. Oui, mais c'est vrai que sur ce sujet de la stabilité fiscale en France, il y a une dizaine d'années, c'était un véritable point faible.
Oui, ça a disparu.
En tout cas en France, on a finalement réussi à grimper les échelons dans ce classement grâce à cette stabilité fiscale
les investisseurs,
et à la politique de l'offre aussi mise en place.
Et les investisseurs reconnaissent au gouvernement d'avoir tenu bon là-dessus. Malgré toutes les crises, à la fois qui ont frappé toutes les économies, comme la crise sanitaire, ou plus particulièrement l'Europe avec la guerre en Ukraine, mais aussi nos propres crises à nous, nos crises internes, nos réformes, les gilets jaunes, etc. Il salue le gouvernement d'avoir tenu la barre là-dessus.
Le climat social revient en force dans les motifs d'inquiétude.
Revient en tout cas, ça revient un point noir.
Mathieu Pechberti.
Non, il y a la vision du verre effectivement à moitié plein, ou alors on peut aussi la regarder à moitié vide, malheureusement. Il y a beaucoup d'entreprises françaises, et la plupart, voire la totalité des entreprises françaises, des grandes entreprises françaises, faut bien le dire, faut bien le réaliser, qui regardent non pas en Europe, mais qui regardent aux États-Unis, justement, évidemment, grâce à l'IRA, mais pour investir aux États-Unis, c'est ce qu'elles cherchent toutes. Et donc, il y a aussi cette contrepartie du fait que, en Europe, on se satisfait aujourd'hui des investissements, en tout cas en France, des investissements étrangers, et avec cette ligne de crête que le gouvernement a une semaine sur deux entre guillemets la protection de l'industrie française, de nos fleurons français qui sont concurrencés par ces étrangers. On l'a vu dans l'automobile, on en a beaucoup parlé ici, ou dans le monde pharmaceutique par exemple, où on voit arriver des investissements où le gouvernement essaie de gérer entre les investissements chinois qui interviennent en France et la concurrence des Chinois pour les groupes français. C'est quand même une ligne de crête, encore une fois.
Ce que nous rappelle EY, c'est que la concurrence pour attirer les investissements étrangers, ne serait-ce qu'en Europe, est de plus en plus vive. C'est plus seulement le Royaume-Uni, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne. Maintenant, ça va chercher du côté de la Pologne, ça va chercher du côté de la Serbie, ça va chercher du côté de la Turquie désormais. C'est ça, finalement.
Ouais, ça, c'est un point très intéressant. Ouais. C'est-à-dire qu'effectivement, avec les besoins de relocalisation, enfin, en tout cas, de rapprocher les chaînes de valeur, la supply chain et les outils de production, ça profite effectivement à des pays d'Europe de l'Est ou à des pays qui n'étaient pas forcément dans ces classements-là. On voit que derrière le top 3, donc France, Royaume-Uni, Allemagne, l'Allemagne, on a en 4 la Turquie, dans les pays qui attirent le plus d'investissements, l'Espagne, la Pologne et le Portugal. Et ça, ça s'explique notamment, bien sûr, par le coût du travail. Quand vous regardez le coût de l'heure de travail dans l'industrie et les services, c'est la même en France et en Allemagne, c'est 43 euros. Au Royaume-Uni, Italie, c'est 29, Portugal, c'est 16, Pologne, 14.
Oui, c'est vrai. Alors, en revanche, quand même, spécialement dans l'industrie pharmaceutique, tous les industriels s'accordent à dire que la France reste la première porte d'entrée par rapport à sa situation géographique pour la distribution de médicaments.
Alors oui, et en même temps, ils ont publié hier, c'est pas un hasard, leur baromètre d'attractivité à eux, dans l'industrie pharmaceutique, et ils disent que la France est championne d'Europe du pays qui paye le moins bien. La France paye très mal l'industrie pharmaceutique. C'est très très compliqué. Hein. On a beaucoup de mal à être compétitif là-dessus.
Mathieu, pour
conclure. Non, juste sur l'union des marchés de capitaux, c'est évidemment important. Et c'est pas, enfin, évidemment, la taille du marché est importante, compte tenu du fait qu'il y a énormément de, il y a autant de places boursières en Europe qu'il y a de pays. Mais quand on écoute ce qu'a dit il y a quelques jours Patrick Pouyanné sur cette fameuse polémique concernant Total Energy, oui, je sais, pour faire la transition aussi, c'était évidemment la taille du marché qui est importante, mais c'est surtout la règle. Donc faire un grand marché des capitaux en Europe, ça va mettre un peu de temps d'abord, mais enfin si on y parvenait, pourquoi pas, mais c'est surtout la réglementation qui sera associée, et là force est de constater que en France en tout cas elle est moins souple qu'ailleurs.
Ce fardeau de décennies de surrégulation.
Emmanuel Macron, il y a une semaine à la Sorbonne, disait justement il faut déréglementer quelque part les règles financières en Europe.
Oui,
Dissolvency, Bâle 3, bon, pareil, c'est un peu comme les règles de l'OMC, on ne doit pas être les seuls à respecter. Donc pas forcément tout jeter à la poubelle, mais assouplir un peu le cadre.
Oui, mais enfin, on n'arrête pas de le dire, Thomas. Il faut déréglementer, il faut simplifier, il faut accélérer.
Non, mais là, c'est la première fois qu'il dit sur les règles prudentielles et assurantielles.
Oui.
C'est bon, c'est assez risqué péril, hein, puisque si on s'y rend pas, c'est pas
rien. Parce qu'en même temps, on a un système bancaire extrêmement solide.
Voilà, il y a un an, quand il y avait.
On a enfin, après la crise de 2008, donc.
Quand il y a
une fois,
y a
la
un
ligne de crête,
les banques régionales faisaient faillite, on était bien contents d'avoir ces règles.
Et sauf que les grands perdants sur les 10 dernières années, en matière de puissance financière, c'est quand même les banques européennes. C'est-à-dire que quand vous voyez la place qu'ont pris les banques américaines sur toutes les grandes opérations internationales de fusion-acquisition, etc.,
il y a.
Il n'y a plus une banque européenne qui est parmi les meilleures.
Il faut créer des mastodontes bancaires comme aux États-Unis.
On reparlera de tout ça dans 15 jours, le 13 mai de Choose France, du côté de Versailles, le sommet de Choose France à Versailles, bien sûr.
Oui. On y sera.
Alors vous connaissez le slogan ?
Non.
C'est France, terre de champions.
C'est vrai ?
Ce sera le slogan de cette année.
Ce sera le slogan de 2024.
Ouais. Choose France 2024.
Emmanuel Macron, il sera à Versailles. Il y aura des annonces, nous disait Franck Riester et BFM Business.
On ne sait pas lesquelles. Hein. C'est pas avancé.
En même temps, l'objectif hein, il faut rappeler, c'était de ramener de 10 à 15% à la part de l'industrie dans le.
D'ici 2030.
Dans le PIB, d'ici 2030, il y a des rapports qui sont en cours, mais qui sont publiés et qui disent que déjà, si on arrive à 12%,
ce sera bien,
même si ces 12% permettraient de maintenir un solde commercial industriel équilibré.
Allez, work in progress. On va parler de Total, mais on a un petit hors-d'œuvre avec la SNCF quand même. Voilà.
Oui, alors avec un Bruno Le Maire très en colère ce matin sur BFM TV, alors en colère contre le PDG justement de la SNCF, Jean-Pierre Farandou, qu'il va convoquer à Bercy dans les prochains jours. Il semblerait qu'il n'ait pas du tout apprécié cet accord sur l'aménagement de fin de carrière qui a été signé il y a quelques semaines.
Accord qui concerne les cheminots et les contrôleurs, je vous en donnerai les modalités dans un instant. Accord en tout cas totalement justifié, disait ce matin sur BFM TV, Emmanuel Le Chypre y était, Fabien Villedieu pour Sudrail SNCF, qu'on écoute tout de suite. Écoutez.
Peut-être Bruno Le Maire fait de la politique, voilà, mais moi j'en fais pas. Voilà. Quand on fait grève, on gueule. Bon, bah, quand on fait pas grève, on trouve un accord, on gueule aussi, mais ça fait partie du game. Moi, la seule chose que je voulais dire, quand même, c'est que ce n'est pas, d'abord, c'est pas un nouvel accord, c'est un accord qui existe depuis 2008, qui a certes été amélioré, mais qui est vieux, et que par ailleurs, il y a plein de secteurs d'activité où il y a des accords comme ça, de départ anticipé. Vous prenez les chauffeurs routiers. Il y a un accord, CFA, congé de fin d'activité, qui permet de partir 5 ans plutôt avec un certain nombre de critères, 30 ans de route, voilà, faut se les taper quand même, les 30 ans de route en étant de chauffeur routier, mais vous avez la possibilité de partir 5 ans plus tôt. Cet accord existe exactement chez les conducteurs de bus interurbains.
Manu, qu'est-ce que ça vous inspire ? Parce qu'on rappelle quand même que la SNCF, pour ceux qui ne le savent pas, qui vivraient sur une autre planète que la Terre, 100% des actions de la SNCF sont détenues par les pouvoirs publics et il y a eu une dette de 25 milliards d'euros qui a été requalifiée en dette d'État. Donc Et c'est un monopole. Donc on peut comprendre la colère de Bruno Le Maire.
Alors, il y a plusieurs choses dans tout ça. Que Bruno Le Maire n'ait pas été au courant, bon...
L'opinion, pardon, je te coupe parce que le journal de l'opinion a sorti il y a une heure un article expliquant justement qu'en fait Matignon était au courant. Voilà, donc pour mettre un petit peu de friture sur la ligne du gouvernement.
C'est même pas que Matignon est au courant. En fait, l'origine de cet accord, c'est quand même, si on recoupe un peu les informations qu'on a auprès des syndicats et de la SNCF, si vous voulez, ça commence au moment de la réforme des retraites, lorsque finalement Elisabeth Borne, pour essayer d'obtenir un accord des syndicats cheminots, dit finalement, bon, allez, vous me signez ma réforme des retraites, et puis il y aura bien moyen de revenir un petit peu sur cette réforme des retraites par le biais d'un accord d'entreprise. Donc c'est à cette époque-là qu'en fait naît ce projet. Ensuite, il est impensable que Jean-Pierre Farandou ait signé cet accord sans que tout ça soit suivi à l'Élysée, par exemple. Donc franchement, ça c'est totalement impensable. En plus, rappelons-le, il y a encore quelques jours, devant l'Assemblée nationale, le ministre des Transports trouvait que cet accord était quand même finalement assez bien et ne trouvait rien à y redire. Donc, ce qu'on comprend, c'est qu'il y a effectivement un agacement des Français vis-à-vis de ces professions qu'ils considèrent comme privilégiées, que Bruno Le Maire enfourche ce cheval-là, que, rappelons-le, la SNCF est une entreprise de droit privé, mais détenue à 100% par l'État. Donc, quand vous voulez revenir sur un accord, si c'est le cas, vous avez deux possibilités. Soit vous essayez d'aménager l'accord, mais là, ça n'est possible qu'avec les syndicats qui ont déjà signé le premier accord. Soit vous le dénoncez. Mais moi, j'imagine Jean-Pierre Farandou arrivant dans le bureau de Bruno Le Maire la semaine prochaine et lui disant...
Ça servira à rien, bah, écoutez,
moi, je veux bien qu'on remette tout sur la table, mais si vous voulez quand même avoir le calme pendant les Jeux Olympiques, c'est peut-être pas très raisonnable, etc. Oui. Et donc, voilà. Donc, moi, je pense que ça va très bien se passer, que Jean-Pierre Farandou est assez tranquille sur le sujet.
Bah, il a piégé Bruno Le Maire, alors, vous écoutez...
Et que... Bah, il a piégé Bruno Le Maire. Lui, il avait sans doute... ce qui est possible, c'est que, par exemple, son mandat s'est terminé le 31 décembre. Donc là, on attend incessamment sous peu de savoir il va être reconduit ou s'il ne va pas être reconduit. Si on décide que finalement il faut dénoncer cet accord, qu'on ne renouvelle pas Jean-Pierre Farandou, mais bon courage.
On nommerait un nouveau patron, vous l'imaginez revenir en arrière là-dessus, c'est impossible.
C'est-à-dire que si vous voulez 2 ans de tranquillité sociale,
Mathieu, il y a un sujet.
C'est pas la bonne voie.
Est-ce qu'il y a un sujet ? Alors oui, effectivement, comme le disait Emmanuel, son mandat a expiré à la fin de l'année 2023. On ne sait pas encore s'il va être renouvelé, Jean-Pierre Farandou, finalement.
Non, on ne sait pas encore. Et moi, effectivement, j'ai quand même du mal à m'empêcher de n'y voir qu'un jeu politique. Le mandat de Jean-Pierre Farandou arrive à son échéance. Au sein du gouvernement et à l'Élysée, tout le monde se gratte la tête sur son renouvellement. A priori, il est plutôt bien parti pour être renouvelé. Moi, j'y vois quand même, je me demande si Bruno Le Maire veut pas peser dans ce débat-là entre... Ouais. Bruno Le Maire est quand même dans une séquence particulière en termes politiques depuis maintenant plusieurs semaines et dans de nombreux arbitrages avec Emmanuel Macron sur une... Il y a eu une mini-crise politique quand même entre lui et Emmanuel Macron.
Il est allé au conseil d'administration d'EDF.
Il a été au conseil d'administration d'EDF. Il intervient sur Atos. Ouais. Et je ne peux m'empêcher non plus de rappeler que sur une autre nomination importante qui est celle du renouvellement qui n'a pas eu lieu, mais du PDG de l'aéroport de Paris, Augustin de Romanet. Oui. Il était obligé de se déporter parce qu'il était en situation de conflit d'intérêts, parce qu'il a des liens familiaux avec Augustin de Romanet. Donc je me demande s'il n'y a pas aussi un peu de tout ça là-dedans, et du fait de vouloir peser dans la décision de renouveler ou non Jean-Pierre Farandou. Alors que, en général, la SNCF et EDF, qui sont des entreprises 100% publiques, la décision vraiment finale... Oui. intervient à Matignon et à l'Élysée.
Est-ce que Bruno Le Maire a intérêt à ce que la SNCF change de tête ?
Non, mais en plus, il faut savoir que Jean-Pierre Farandou,
Jean-Pierre Farandou
n'ira pas au bout de son mandat. Oui. Donc, ce qui serait le plus raisonnable, compte tenu quand même des moments délicats qu'il va falloir enjamber, ce serait de le maintenir jusqu'à la fin de son mandat, enfin, jusqu'à la date butoir. Jusqu'à sa limite d'âge, effectivement,
d'acheter. 2025, hein.
Puis il y a tellement de sujets que, enfin, je veux dire, si le gouvernement peut s'acheter un peu de tranquillité à la SNCF pour quelques trimestres, voire quelques années.
Oui, alors je vous rappelle qu'il n'y a pas eu une année sans grève à la SNCF depuis 1900. C'est un quiz.
Allez. Bah, depuis toujours.
Non, 1947.
Bah oui, mais
quasi là, toujours.
Ah, voilà. C'est pas mal, j'avais pas fait. C'est intéressant.
1947. Ouais.
Après, il n'y a pas eu beaucoup d'années avant où ça.
Alors, Bruno Le Maire, alors, très en forme ce matin, on disait, donc taqué au patron de la SNCF, et puis taqué aussi au patron de Total Energy. Pourquoi ? Parce que son PDG envisage, vous savez, de transférer la cotation principale du groupe à New York au lieu de Paris, tout simplement. Hein.
Oui, et Bruno Le Maire l'a dit, il fera tout pour que cette situation n'arrive pas. Pour lui, c'est contre l'intérêt supérieur de la nation, tout simplement. Écoutez.
Et je suis là pour faire en sorte que ça n'ait pas lieu. Parce que je pense que c'est une décision qui est grave. Nous avons besoin de Total. J'ai eu l'occasion à plusieurs reprises de dire à quel point c'était un atout pour la France d'avoir une grande compagnie pétrolière comme Total, avec, par exemple, lorsqu'il y a des prix de l'énergie qui explosent, des prix des carburants qui explosent, un géant de la distribution et de la distribution de pétrole, d'essence ou de diesel, qui dit « je vais plafonner à moins de 2 euros ». Le prix du carburant à la pompe. Bah, si vous n'avez pas Total, vous ne pouvez pas le faire. Donc c'est important de garder Total. Est-ce que l'intérêt supérieur de la nation est de garder le siège social de Total en France et la cotation principale de Total en France ? Oui. Et donc je me battrai pour cela parce que c'est l'intérêt supérieur des Français.
Bon, vous allez redire qu'il joue le patron, mais en réalité, Total, c'est quand même un véritable poids lourd, en tout cas pour la place de Paris. C'est 9% du CAC 40, une valo à 167 milliards d'euros. On n'a pas du tout intérêt à ce que Total parte à New York.
Mais Total n'a pas forcément intérêt non plus, en fait. Tout le monde part de ce principe, parce que le PDG de Total, Patrick Pouyanné, en a parlé ainsi. Quand on regarde dans le détail, en a-t-il vraiment envie ?
Ça lui donnerait accès à une masse d'investisseurs beaucoup plus importante.
Ça lui donnerait une réglementation beaucoup plus contrainte qu'en France. Et ça, il faut quand même le voir. Vous savez, il y a quelques entreprises françaises qui ont été doublement cotées ces dernières décennies. Moi, je me souviens d'une époque, c'était il y a longtemps, mais où Jean-Marie Messier, patron de Vivendi, avait coté Vivendi à New York. Mmh. Tout le monde l'applaudissait. Et puis, quelques années après, il s'est pris des class action où Vivendi en paye encore certains cabinets d'avocats pour gérer ça. Il y a des contraintes. Je peux vous dire que la SEC, le gendarme boursier de Wall Street, est bien plus sévère et bien plus tatillon que l'est l'autorité des marchés financiers à Paris.
Alors quel est le but ? Quel est le but de la manœuvre ?
Non, mais il y a un appel politique de la part de Patrick Pouyanné. On parlait d'attractivité tout à l'heure de l'Union des marchés de capitaux, sûrement aussi pour la réglementation des investisseurs vis-à-vis des critères ESG, sûrement.
Ce n'est pas l'affaire de Bruno Le Maire, là, mais c'est l'affaire des marchés.
Bah, écoutez, il y a une loi qui est en train de passer sur l'attractivité, sur l'union des marchés de capitaux. Donc, on est quand même. C'est ça l'actualité, on est quand même
oui,
en plein dedans.
Il y a des sujets de fiscalité sur le rachat d'actions, etc. Ouais.
Des fonds ISR, non, mais, là, ce n'est pas Bruno Le Maire.
Moi, je pense que là où c'est moyennement crédible, une double cotation, pourquoi pas ? Les groupes français, comme Total Energy, de toute façon, ont plusieurs pieds sur tous les continents du monde. Mais la première cotation aux États-Unis, si ça arrivait, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que là, vous avez 80% de vos investisseurs qui sont américains. Donc Patrick Pouyanné, son bureau, il n'est plus à la Défense, il est à Wall Street. À bien un moment où vous avez le PDG qui est à Wall Street, vous avez tout le comité exécutif qui est à Wall Street, etc., etc. Donc c'est-à-dire que c'est tout le groupe qui partirait.
Il a le danger.
Mais il n'en est pas question. Total Energy a quand même un comportement et une communication maintenant depuis des années qui a été impulsée justement par Patrick Pouyanné, de dire Total est une entreprise française, nous jouons d'ailleurs, nous faisons des efforts quand il y a la crise énergétique pour aider les Français avec les prix à la pompe. Enfin, moi je trouve que tout ceci est assez contradictoire et donc il y a forcément un enjeu politique pour Total.
Oui, mais n'empêche qu'il y a quand même aussi un enjeu financier, puisque Patrick Pouyanné vise forcément les valorisations des grandes majors américaines. Quand on voit que Chevron, qui a quasiment un chiffre d'affaires
mais les investisseurs américains
se valorise à 6 fois son EBITDA, Total c'est 3 fois et demi.
Pétrole européenne, c'est vrai, sont sous-cotées par rapport à celle de...
Oui, là vous avez raison, c'est parce qu'effectivement les investisseurs américains aiment même plus temps, le pétrole que nous.
Et en même temps, si vous n'avez pas votre siège social aux États-Unis, vous ne pouvez pas être coté. Au S&P 500, qui perd quand même de son intérêt d'être coté aux États-Unis.
Thomas ?
On peut se demander aussi si ce n'est pas un petit coup de gueule, quelque part, aussi de Patrick Pouyanné sur le total bashing en France.
Oui.
Comme vous le dites, à sa façon, il joue le jeu en plafonnant les prix à 1,99€. Il essaie de démontrer par A plus B qu'il engage la transition écologique.
S'il n'y a pas total pour plafonner à 1,99€, effectivement.
Oui, et puis lui essaie de démontrer aussi par A plus B qu'il joue le jeu de la transition écologique, qu'un tiers de ses investissements vont dans les renouvelables, etc., etc. Et que finalement, tout ça ne convainc pas les investisseurs français et européens. Donc peut-être qu'il en a parfois un peu gros sur la patate.
Et les actionnaires européens vendent leur participation alors que les actionnaires américains achètent.
Mathieu Pechberti semble considérer que ce n'est pas de la flûte, mais que voilà.
Mais bon, effectivement, entre les actionnaires les taxes sur les super profits. Enfin, le nom de Total revient tout le temps dans les polémiques.
Je pense qu'il y a une communication un petit peu non préparée. Moi, non.
Oui. Alors, en revanche, quand même, puisque vous, on parle du total bashing, hein. Une acceptation de la part du grand public vis-à-vis de la marque, notamment grâce au prix plafonné à la pompe. Hein.
Oui. Donc, il envoie bien un message aux investisseurs et à ceux qui écrivent la réglementation pour les investisseurs.
Il y a un message. Voilà. Et bien voilà, 18h57, c'est terminé pour cette première partie des experts. Merci beaucoup messieurs, Mathieu Pechberti, Emmanuel Le Chypre et Thomas Asportas. À très vite pour de nouvelles aventures. 18h57, bah nous on revient dans un instant, on est là jusqu'à 20h bien sûr.
Et oui, en direct, on continue de décrypter l'actu éco pour vous. À tout de suite.
Good evening business. Actu, experts, débat et interview des grands acteurs de l'économie.